Prévention.
Stalking.
Stalking.
Consentement.
Body shaming.
Consentement.
Capsule.
La capsule de Citadelle.
Bonjour à tous et toutes. Salut Maude.
Bonjour Clémence.
On vous souhaite la bienvenue dans cette capsule réalisée pour Citadelle. L'objet de ce format de moins de 10 minutes, c'est de vous permettre de mieux comprendre les contours d'une notion.
Le consentement, par exemple.
Et ou de vous doter d'outils pratiques en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Dans celle-ci, on vous propose une petite plongée dans le grand bain des mots des cyberviolences sexistes et sexuelles, encore appelées cybersexisme ou cyberviolences de genre. Parce que le monde du numérique a ses outils, ses pratiques et donc aussi son vocabulaire, qu'il faut apprendre à décoder avec souvent pas mal d'anglais dedans.
On a donc fait une sélection subjective, mais pas que, des termes qui nomment les cyberviolences sexistes les plus rencontrées par les adolescents et les adolescentes et les jeunes adultes. C'est parti !
Clémence, je te propose de commencer par les cyberviolences sexuelles. Dans une des enquêtes Ipsos réalisées en 2021 et 2022 pour le collectif féministe contre le cyberharcèlement, j'ai appris que 53% des femmes âgées de 18 à 29 ans rapportent avoir reçu des images explicites non sollicitées. Et dans l'étude du Centre Hubertine Auclert sur le cybersexisme chez les ados de 12 à 15 ans, ça concerne déjà une fille sur 6 et un garçon sur 10.
Ces chiffres sont incroyables. 53%, c'est plus d'une femme sur deux. Quand on parle d'images explicites non sollicitées, on parle surtout de dick pic. C'est ça, Maude ?
Ouais.
Une dick pic, c'est une photographie de pénis, généralement en érection, envoyée par Internet. Réseau social, site de rencontre, messagerie instantanée, courrier électronique, etc. Cette pratique sexuelle exhibitionniste peut s'apparenter à du cyberharcèlement sexuel lorsqu'elle est envoyée à quelqu'un sans son consentement. Lorsqu'elle est envoyée à quelqu'un avec son consentement, il s'agit de sexting. Et il n'y a pas que les dick pics. Sais-tu ce qu'est un deepfake ?
Malheureusement, oui. Mais seulement depuis qu'on a commencé les recherches pour la troisième série du podcast de Citadelle sur les cyberviolences sexistes et sexuelles. Il s'agit d'un terme anglais, contraction de deep learning et fake, qui peut se traduire par hyper-trucage. Cette pratique qui consiste à truquer une photo ou une vidéo est généralement utilisée dans le but de nuire à la personne mise en scène en lui imaginant un comportement ou des propos falsifiés. Le deepfake s'appuie sur une base de données de vraies images et vidéos et le résultat est donc souvent hyper crédible. Et une des pratiques courantes de deepfake, c'est de poster une photo ou une vidéo truquée utilisant le visage de la victime sur un corps nu et ou réalisant un acte sexuel.
Ceci étant, les agresseurs font souvent beaucoup plus simple en postant sans leur accord des photos ou des vidéos intimes qui avaient été au départ réalisées avec le consentement des personnes concernées, souvent leur partenaire ou ex, et même parfois réalisées par elles-mêmes. D'autres postent des photos ou vidéos intimes captées sans le consentement des personnes concernées. C'est le cas par exemple de la pratique du upskirting, littéralement sous les jupes.
Et attention, l'auteur des cyberviolences, c'est pas seulement la personne qui poste ces photos ou ces vidéos, mais également toutes les personnes qui les repartagent.
Tout ça est souvent rassemblé sous le terme plus général de « revenge porn » que les chercheurs et chercheuses, les professionnels et les féministes préfèrent traduire par « porno-divulgation ».
Pourquoi ?
Pour éviter d'utiliser le terme de « vengeance » qui vient appuyer et légitimer le point de vue de l'agresseur. En tout cas, qu'on parle de « revenge porn » ou de « porno-divulgation », le but est toujours le même, nuire à la victime. D'ailleurs, pendant le premier confinement au printemps 2020, on a assisté à l'apparition d'un nouveau phénomène, les comptes ficha. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ?
Ficha vient du verlan et signifie « affiche ». Un compte ficha est donc créé pour divulguer des informations personnelles, le plus souvent des photos et vidéos intimes d'une personne pour l'humilier. Évidemment, sans son consentement, et en révélant aussi son identité avec son pseudo ou son nom, et des infos personnelles comme son numéro de téléphone par exemple. Ces comptes se sont multipliés sur les réseaux sociaux et messageries instantanées, notamment sur Telegram, Snapchat et Twitter. Ce phénomène a été vigoureusement dénoncé par le collectif féministe Stop Ficha, qui a déjà fait sauter plusieurs milliers de comptes depuis sa création au printemps 2020, tout en offrant aux victimes un accompagnement juridique et psychologique. D'ailleurs, vous pouvez entendre Lisa, une des cofondatrices de Stop Ficha, dans l'épisode 2 de la série « Écouter, agir », ensemble contre les cyberviolences sexistes et sexuelles.
Il existe aussi des agresseurs qui ne passent pas directement à l'étape de la diffusion des photos ou vidéos à contenu intime ou dégradant, mais qui utilisent la menace. Ça s'appelle la sextorsion. contraction de sexe et d'extorsion. La sextorsion consiste à menacer la victime de diffuser ses images ou vidéos intimes si elle ne cède pas aux demandes de l'extorqueur, qu'il s'agisse d'argent ou de contenu intime supplémentaire ou encore de faveurs sexuelles dans la vie physique.
Ah oui, on appelle ça aussi le chantage à la cam. Et Yasmine Buono, spécialiste en éducation numérique, nous apprend que ce phénomène touche aussi bien les filles que les garçons, et ce, dès le CM2. Elle explique...
Derrière tout ça, il y a les bots,
des programmes informatiques autonomes,
déployés par des filières de pédocriminels qui cherchent à obtenir du matériel pédopornographique avec une forte demande de jeunes garçons en train de se masturber.
Mais comment font-ils pour les convaincre ?
Par exemple, un faux compte d'une jeune femme au physique attrayant est créé sur Tinder, TikTok, Instagram ou un autre réseau social qui convainc les jeunes ados d'envoyer des nudes, c'est-à-dire des photos intimes, le plus souvent des selfies, pas forcément complètement nues d'ailleurs. Il arrive que derrière cette escroquerie se trouvent des adultes se faisant passer pour des jeunes. On parle alors de grooming.
Bon, j'ai envie de conclure cette première partie sur le vocabulaire des cyberviolences sexuelles par un chiffre. D'après l'enquête Ipsos pour le collectif féministe contre le cyberharcèlement réalisé auprès des plus de 16 ans, 69% des victimes de diffusion de contenus intimes ou dégradants rapportent avoir été culpabilisées par leur entourage ou par des professionnels. 7 victimes sur 10, tu te rends compte ?
Ah oui, c'est ce qu'on appelle le victim blaming. Et malheureusement, ça ne m'étonne pas parce que les cyberviolences sexuelles sont une des manifestations de ce qu'on appelle la culture du viol, ce pilier du sexisme dans lequel nous vivons tous et toutes. Du coup, cette culture du viol qui banalise les agressions sexistes et sexuelles et rend les victimes coupables de ce qui leur arrive, on la retrouve sur Internet où sévit le slut-shaming, par exemple, qui consiste à insulter celles dont la tenue vestimentaire, le maquillage, les attitudes, voire les activités sexuelles seraient jugées trop provocantes. Et cette pratique touche principalement les jeunes filles.
Il y a aussi le body shaming, qui consiste à se moquer ou à humilier une personne en raison de ses caractéristiques corporelles via les réseaux sociaux. L'étude sur le cybersexisme menée par le Centre Hubertine Auclert auprès des adolescents et adolescentes de 12 à 15 ans révèle que 20% des filles en sont victimes, pour 13% des garçons.
Globalement, la forme de cyberviolence la plus répandue, ce sont les insultes et ou les menaces. 93% des victimes déclarent en avoir subi. Dans cette catégorie, il y a notamment le flaming, que l'on peut traduire par propos inflammatoires, qui consiste à publier des messages violents ciblant une personne ou un groupe. On parle aussi de trash talking pour désigner ce genre de propos insultants, menaçants, raciste, sexiste ou encore LGBTQI-phobe. Le phénomène est très courant sur les jeux vidéo en ligne.
Il y a aussi le phénomène des raids numériques. Les femmes qui s'expriment sur les réseaux sociaux y sont particulièrement exposées. Célébrités, militantes, influenceuses, journalistes, femmes politiques.
De quoi s'agit-il ?
La loi du 3 août 2018 contre les violences sexuelles et sexistes a introduit la notion de harcèlement en meute ou raid numérique dans le code pénal, en complétant les définitions du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Cette nouvelle définition offre une plus grande protection vis-à-vis des victimes de cyberharcèlement en incriminant toute personne qui a participé, même par un acte unique et même sans concertation, au harcèlement en groupe d'une seule personne. En pratique, prendre part à une campagne de dénigrement à l'encontre d'une personne via un seul tweet injurieux est donc punissable. On l'appelle aussi « raid de cyberharcèlement » ou « harcèlement de meute ».
Si vous voulez creuser le sujet, on vous recommande le documentaire « Sale pute » réalisé par Florence Hainaut et Myriam Leroy, qui donne la parole à toutes ces femmes actives sur les réseaux sociaux qui ont reçu des milliers, voire des centaines de milliers de messages articulés autour de deux axes forts. Les insultes, d'une part, sexistes, racistes, grossophobes, LGBTQI-phobes, et les menaces de viol et de meurtre.
Pour conclure ce dico des mots du cybersexisme, on voudrait rappeler que les mots peuvent faire mal et que la vie numérique fait partie de la vie tout court, comme d'aller à l'école, au travail ou dans la rue. En d'autres termes, les cyberviolences sexistes et sexuelles, c'est pas du virtuel et ça a des conséquences très concrètes dans la vie des victimes.
Merci Maud pour ce rappel et à bientôt.
À bientôt, salut Clémence.